Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On a ouvert la soirée avec une sportive, on va la clore avec une autre sportive qui est également journaliste, écrivaine. Elle a vécu plusieurs vies dans une vie et elle va nous en partager une petite partie ce soir. Merci d'applaudir très fort, Cécile.
Bonsoir. Moi, je me suis assise parce que vous n'êtes peut-être pas prévenu, mais si j'étais restée debout, je vous aurais donné le mal de mer. Donc, on ne vous a pas demandé de prendre une pilule des transports. Donc, du coup, je préfère être assise. Donc, enchantée, je me présente, je m'appelle Cécile. Je suis... pourquoi je suis assise? Mais je marcherai à la fin pour montrer que je marche. Pas très bien, mais je marche. Je suis assise parce que je suis une personne handicapée. J'ai été valide et j'ai été sportive valide. On parlait de sport. Et puis, le 21 octobre 2002, un matin, au réveil, ma vie a basculé du rêve, parce que jusqu'à mes 28 ans, jusqu'au 21 octobre 2002, j'avais une vie absolument paradisiaque. Le mec parfait, je faisais du sport de haut niveau, l'appartement parfait, la voiture parfaite, le job parfait, donc tout allait super bien. Et puis, le 21 octobre, j'entends une sonnerie retentir dans mon appartement. Je crois que c'est le réveil. Matin, je tape et finalement, non, c'est le téléphone dans mon bureau, dans la pièce d'à côté. Donc je jette ma couverture, je pose mes pieds par terre et là, boum, je m'effondre. Je m'accroche au matelas, j'essaie de me lever à nouveau, je m'effondre à nouveau. Je comprends pas, je tape mes jambes, je griffe mes jambes, rien. Donc mon compagnon fait le tour du lit. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais par terre? Et là, il voit la stupeur sur mon visage et il comprend qu'il y a quelque chose de grave. Il s'agenouille devant moi et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je lui dis, je ne peux plus bouger mes jambes. Et il me dit, je lui dis, je ne sens plus les jambes, je ne sens pas le froid du carrelage, je ne sens plus rien. Et là, c'est des mots qui vont me marquer. Il me dit, ma chérie, si tu m'aimes, bouge les jambes, je t'en supplie. Et je lui réponds, écoute, j'ai beau t'aimer le plus fort du monde, je n'arrive pas à bouger mes jambes et je pleure, je me griffe. Donc, je vais être transportée aux urgences de l'hôpital de Perpignan et 4 jours plus tard, après 4 jours d'examen, pas du tout agréable, 4 jours à passer dans une chambre stérile, de service en service. Il y a un neurologue qui va rentrer dans ma chambre d'hôpital et qui va interpeller maman, qui va demander à maman de sortir de la pièce. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais ce qui se passe. Je sais qu'il se passe quelque chose de grave, de très grave, parce que je vois la tête de ma maman par la porte entrebâillée et qui se mord les lèvres, qui se retient de pleurer, je le vois. Et ils vont rentrer dans la pièce et ils vont me dire, écoutez, vous ne pouvez plus bouger les jambes depuis 4 jours, vous n'avez plus aucune sensation de la pointe des orteils jusqu'à votre bassin depuis 4 jours. Parce que vous avez une maladie grave et dégénérative du système nerveux central. Mais je comprends rien. Mais rien de ce qu'il est en train de me dire. Je comprends juste que c'est super grave. J'ai passé 4 jours à l'hôpital à me lacérer les jambes, à me mettre des coups de fourchette, à me prendre la brosse, à me lacérer les jambes avec la brosse, à sonner, parce que j'étais complètement couchée, dépendante de tout. Et puis, il va me dire que j'ai une maladie dégénérative, blablabla. Sur l'instant, j'entends de blablabla, mais je comprends que c'est grave. Et la seule question que je lui pose, avant même qu'il ait pu donner le nom de la maladie, c'est « mais est-ce que je vais remarcher ?» Parce que je suis arrivée là, j'étais sportive de haut niveau, j'étais une femme girl power, hyper indépendante, active et tout ça. Et là, je me retrouve face à un médecin qui me dit « mademoiselle, vous avez une sclérose en plaques. » Mais la première question, c'est est-ce que je vais remarcher? Parce que je veux remarcher. Je comprends pas, plaque, sclérose, je comprends rien, je sais pas. Je comprendrai plus tard que maman connaissait des gens qui avait cette maladie et donc qui a bien compris que ça allait être quelque chose, l'avenir allait être grave. Et puis, il va me répondre, on n'en sait rien. La sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative, on sait juste qu'elle dégénère. On ne connaît pas encore vraiment bien la forme, il y a deux formes dans la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui attaque tout notre corps est innervé, donc c'est une maladie qui attaque la gaine de myéline qui conduit des informations à l'ensemble du corps, aux fonctions urinaires, aux fonctions respiratoires. Tout le corps est innervé. Donc là, en l'occurrence, tout mon corps est touché. Donc je vais basculer du 20 octobre où tout allait bien, au 21 octobre où je ne marche plus, au 24 octobre où il y a un diagnostic qui tombe, du monde de rêve au cauchemar. Et là, tu te dis, mais c'est pas ça que je veux. Comment je vais me reconstruire suite à ça? Tu as deux options. Soit tu t'abats, limite tu fuis, limite tu as envie de te foutre en l'air. C'est quand même les idées qui me sont passées par la tête. Soit tu te bats. Mais sur le coup, tu n'as pas envie de te battre. Tu as juste tout qui a basculé dans un monde absolument glauque, absolument noir. Alors, ce que j'ai souvent dit, c'était ma métaphore à moi. Un an plus tôt, il y avait eu les deux tours jumelles qui s'étaient effondrées. Et moi, c'est mon 11 septembre à moi. C'est cette image des deux tours. Mais moi, ces deux tours, c'est mes deux jambes. Mais tout, c'est un cataclysme absolu. Et t'embarques tout le monde dans ta vie. Je vais faire pousser la sclérose en plaques, et tu m'as dit qu'elle voulait pas repousser. Je vais faire pousser sur pousser pendant 3 ans. Jusqu'en 2005, où je fais une poussée gravissime. Je ne marche plus. Je ne parle plus. Je n'arrive pratiquement plus à déglutir. Je ne bouge plus mes mains. Et là, il y a à nouveau question de m'amener en centre de rééducation, parce que j'avais passé de 2002 à 2004 en centre de rééducation, puis j'en suis sortie. Et là, j'ai entendu parler d'un super kiné, un peu magicien à Perpignan, qui a sauvé le genou d'un joueur de rugby, d'un très bon ami joueur de rugby. Et du coup, on l'appelle parce que je ne veux plus retourner en centre de rééducation. Je n'ai fait aucun progrès. J'étais verticalisée entre deux barres. J'avançais à la force des bras. Je passe mon temps en fauteuil roulant. Je ne veux plus. Je me fous en l'air, mais je ne veux plus aller en centre de rééducation. Et donc, ce kiné va accepter de me voir. Donc, on est en août 2005 quand je fais cette gravissime poussée. Et là, il va me dire, on va vite travailler, on va vite se revoir. Demain, est-ce que vous pouvez revenir? Oui, je peux revenir. Je parle pas, hein. Je suis en fauteuil roulant. On traduit à peu près ce qui m'arrive. Et du coup, dans la semaine qui va suivre, il va me dire quelque chose. Il va me dire, Cécile, en décembre, on va s'accrocher tous les deux. On va y croire. Vous êtes des sportifs de haut niveau. Vous avez plein de ressources. Vous êtes plein de valeurs. On va s'accrocher. On va y croire. Et vous ferez Noël sur vos deux jambes. Peut-être en marchant mal, mais vous ferez Noël sur vos deux jambes. Et effectivement, le 16 décembre 2005, je remarchais et je lui ai dit, mais Claude, qu'est-ce qui a fait que tu aies pu me dire, parce que c'est engageant quand même, tu engages ta responsabilité de dire, mais attends, là tu marches plus, tu bois plus, tu parles plus, tu déglutis plus, tu bouges plus tes mains, mais en décembre, tu vas marcher, mal marcher, mais tu vas marcher. Et il m'a dit quelque chose que peu de personnes ont pu me dire dans ma vie. Il me dit, Cécile, c'est ton caractère de merde qui t'a aidée. Et là, je me dis, bon, pour une fois qu'on me félicite de mon caractère de merde. Mais bon, non, effectivement, en fait, à partir du moment où j'ai rencontré cette personne, j'ai eu envie de me battre. J'avais plus envie de me battre. J'avais juste envie de me battre, envie d'avancer. Peu importe la belle voiture, le bel appart, le beau mec, le machin, le truc. Ma vie, mon autonomie, retrouver, en fait, comprendre ce que c'est que le mot vie, comprendre qu'on n'a qu'une vie et que cette vie-là, j'avais envie de la vivre avec mes deuils parce que j'ai fait des deuils, le deuil du sport, je me suis reconstruite différemment. Tout à l'heure, Karine parlait de résilience, ma résilience, je l'ai trouvée dans une écriture thérapeutique, j'ai écrit deux livres, dans des livres où je couchais mes deuils, le deuil que je faisais du sport, le deuil d'une vie d'avant, j'avais monté une société où j'étais super fière de tout ça, peu importe, futilité, juste une vie, vivre, se satisfaire, se complaire dans des petits détails qui font grand bien, mais vivre parce que cette vie, on n'en a qu'une. Et puis, après l'écriture, je me suis dit, ok, je suis devenue une personne handicapée, mais qu'est-ce que j'en fais? Arrête, Cécile, arrête de crier à l'injustice de la vie, arrête de dire mais pourquoi moi? Maintenant, ok, c'est plus pourquoi, c'est pourquoi. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de devenir journaliste. Mais des journalistes, des femmes qui ont envie de devenir journalistes, il y en a plein. Sauf que moi, je suis une personne handicapée. Et je réponds aujourd'hui à une loi qui veut inclure, j'aime pas bien ce mot, mais qui veut inclure les personnes handicapées dans les entreprises de plus de 20 collaborateurs. Et bien, c'est par cette porte que je suis devenue journaliste, d'abord chroniqueuse sur Europe 1, puis journaliste au Figaro. Et puis, à l'issue d'un événement, alors que j'avais fait le deuil du sport, donc j'avais fait du BMX jeune, puis du snowboard à haut niveau, je me retrouve à la montagne pour interviewer un gars qui a perdu sa jambe suite à un accident de voiture, donc faire une interview d'un athlète paralympique qui va partir aux Jeux de Sochi 3 mois plus tard. Et là, je le vois arriver tout fier avec sa planche de snowboard, alors que moi, j'ai fait le deuil de tout ça. Ça me rend malheureuse d'être là et d'avoir fait le deuil de tout ça. Et je le vois fier, sa prothèse, sa jambe coupée, son planche de snowboard, ses boots et tout. Et je lui ai dit, je vais le voir. Je lui ai dit, je dois faire ton interview, mais tu sais, t'es une personne handicapée. Moi aussi, mon handicap se voit moins. J'avais une canne. Mais je suis une personne handicapée. Et là, il me dit, ah, mais c'est cool! Je lui dis, attends, est-ce qu'on a la même définition du mot handicap et du mot cool? T'es un mec du Sud comme moi, mais est-ce qu'on a la même définition? Et je lui dis, en plus, je faisais du snowboard, je suis pyrénéenne. Ah, mais c'est génial, t'es handicapée, t'es une femme, et en plus, tu viens des Pyrénées. Bon, ok, le cumul des mandats, mais là, il cumule des mandats très positifs. Et donc, il me dit, viens, on va remonter sur un snowboard. Donc, on remonte sur un snowboard, et je ne fais que tomber. Parce que ce corps-là, ce corps valide avec lequel j'ai pratiqué le snowboard, c'est plus possible. Par contre, je suis une personne handicapée, je tombe. Mais là, je ne tombe et je me relève. Je ne suis pas restée clouée au sol comme le 21 octobre 2002. Je tombe et je me relève. Et je vais faire que ça, tomber, relever. Mais pleurer en souriant, parce que je suis tellement fière de ça. Et tu as ce mec-là qui est là, qui te pousse. Il continue pendant 3 jours à me dire, Cécile, continue comme ça. Et un jour, tu participeras au jeu. Aux Jeux Paralympiques, les Jeux sont 3 mois plus tard. Et ce mec-là, il me filme, et il envoie les vidéos de mon snowboard un peu hésitant, mais en étant débutante dans ma carrière, de handisportive. Et puis, il va envoyer ça à la Fédé, puis je vais recevoir un coup de téléphone en disant « Venez vous entraîner, on va essayer de décrocher une wildcard pour vous faire participer aux Jeux de Sochi dans 3 mois. » Le truc, il est complètement dingue, ça s'emballe. C'est des gens du Sud, ça s'emballe. Et donc finalement, mais je me retrouve à Sochi en m'étant entraînée 3 mois non-stop avec la première médaille d'argent de l'histoire du snowboard. Et là... Merci. Mais l'argent n'a pas suffi à mon bonheur. Du coup, on se projette sur quoi ? Sur Pyeongchang. Donc Pyeongchang. Je vais passer à côté de mes jeux. Pas vraiment passé, je me suis entraînée 4 ans non-stop, pas 3 mois, 4 ans non-stop. Alors, donc je comprends la tête des filles qui m'ont vu arriver avec 3 mois d'entraînement et aller chercher une médaille. Donc du coup, je me retrouve à Pyeongchang. Donc je décroche l'argent et le bronze. Et là, j'avais promis que j'arrêtais le snowboard parce que ma maladie s'aggravait un peu. Et puis je me dis, bon, allez, je vais quand même aller essayer d'aller tirer jusqu'à Pékin 2022. Donc il y a quelques mois. Et je me retrouve à Pékin 2022 avec mon handicap invisible qui est devenu aussi un vrai combat parce que 80% des handicaps sont invisibles et donc c'est vraiment un sujet militant pour moi. Et je me retrouve à Pékin 2022 avec cette envie et cet objectif, parce que je me dis que c'est mes derniers Jeux d'hiver, avec cet objectif d'aller chercher ça. Merci. Non, vous allez me faire pleurer parce que sur le podium de Pékin, il n'y a pas une photo de moi sur le podium en train, comme tout le monde, en train de faire un sourire ultra bright. Non, j'ai fait que pleurer. Mais bon, donc voilà, donc cette médaille, elle est là. L'or, 8 ans de travail. Alors, cette médaille, elle incarne plein de choses. Elle incarne la roue qui tourne, en plus un peu ce soleil qu'il faut se mettre tous les jours dans la vie, cette petite graine qu'on a chacun au fond de nous. Tout le temps, souvent les gens me disent « Ah mais t'es courageuse !» On est tous courageux. Il faut juste parfois se mettre un peu des coups de pied aux fesses. On a tous des épreuves dans la vie. Mais souvenez-vous d'une chose, on n'a qu'une seule vie. Et je dirais aussi Forrest Gump, il a dit un truc, et ça, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, et ça me plaît bien. C'est la vie, vous le savez ça. La vie, c'est comme... On ne sait jamais. Voilà, salut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.